une carte topographique, c'est un roman à une feuille, c'est vrai. C'est une représentation technique et très juste, mais qui permet de faire jouer l'imaginaire. Et cette unique feuille permet de raconter des histoires à l'infini. Donc, d'un seul coup, ça se met en mouvement. Moi, je vois l'eau qui coule, je vois l'érosion en cours, je vois les effondrements qui se sont produits et qui vont se produire inévitablement. Une fois qu'on a compris ça, je pense que tout le monde devrait avoir une carte dans sa poche quasiment, quoi. C'est tellement fabuleux.
Comment traverser une géographie quand on ne la voit plus? Un sens où fausse compagnie et tous les autres viennent à la rescousse. Qu'il s'agisse d'un accident de la vie ou d'un jeu, le mot d'ordre est le même. Accepter de lâcher prise et aiguiser nos sens. Être à l'affût du moindre signe afin de réinventer l'environnement qui nous entoure. Ils sont déficients visuels, géographes, enseignants de locomotion, preneurs de son ou metteurs en scène. Tous réinventent le paysage, leur imaginaire en étendard. Nos géographies, épisode 3, des histoires plein les poches.
La fille n'était pas laide, loin s'en faut. Fine, vive, un visage avenant, elle aurait même pu être jolie, n'étaient ces étranges yeux jaunes qui vous regardaient sans ciller. Enfant, Chaperon consacrait ses moments de loisir à vagabonder en forêt, nonobstant les avertissements sur les risques de mauvaises surprises que cela pouvait comporter pour une jeune personne isolée. Elle y développa une étonnante familiarité avec le milieu et une fine connaissance de ses hôtes. Au hasard de ses balades, elle était un jour tombée, au détour d'un layon, sur une vieille bonne femme qui, ne connaissant que trop bien les hommes, avait résolu de se passer de leur présence en s'installant par là. Le courant était passé immédiatement entre les deux marginales, et Chaperon avait décidé de faire de la vieille la mère grand qu'elle n'avait jamais eue. Elle venait souvent, chantonnant les niaiseries en vogue à l'époque et décapitant les fleurs du bord du chemin d'un petit coup de sabot net et précis, lui porter un petit pot de sein doux, un cervelas et force autres délicieuses charcutailles dérobées dans la boutique paternelle. À l'adolescence, forte de ses propres connaissances et de celles glanées auprès de Mère Grand, Chaperon se mit à braconner hardiment. Le menu frottin, d'abord, puis des clients plus sérieux, chevreuil et sanglier, pour finir par ne plus guère s'intéresser qu'au loup, l'animal le plus intelligent, le plus rusé et le plus méfiant qui soit, un adversaire à sa mesure.
Alors donc, en fin de compte, je vais prendre la carte de Chamonix.
D'accord.
Alexandre Moine, géographe.
C'est une carte qui est absolument fabuleuse.
Décrivez-la nous.
Alors, on voit qu'il y a des couleurs et qu'elles ont du sens. Voilà. On voit qu'il y a du vert, il y a du bleu, il y a du marron et il y a du noir. Il y a quatre couleurs. Alors, si je suis au bleu, bleu des lacs, bleu des rivières, et puis bleu des altitudes des glaciers. Les glaciers sont blancs, mais les courbes de niveau sont bleues pour les glaciers. Donc ça donne de loin, quand les glaciers sont très pentus, l'impression qu'ils sont tout bleus tellement les courbes sont serrées. Et le marron, là c'est absolument fabuleux, parce qu'on rentre dans la réalité de la carte topographique, c'est-à-dire c'est les courbes de niveau. C'est là que nous est donné le relief. Alors quand on est au-dessus de Chamonix, là, ça nous saute à la figure. puisque les courbes de niveau, elles sont, il y en a une quantité phénoménale. Elles dessinent les pentes, les sommets, les arêtes. Par défaut, au fond, c'est bleu, c'est l'étal vague, et c'est là que ça creuse, c'est là que se fait l'érosion. Et on voit les petits lacs qui sont posés sur des replats, des endroits où les courbes de niveau s'écartent un peu. Il n'y a plus de pente, et évidemment, il y a de l'eau qui apparaît, donc il y a des myriades de lacs à certains endroits. Et le vert, parce que sur une carte comme ça, bah, on lit les étages montagnards, ce qu'on appelle les étages montagnards. On voit bien qu'il n'y a pas du vert jusqu'au-dessus. Donc là, cette carte, elle commence à parler. Voilà, je suis parti de la légende. J'ai juste là combiné trois couleurs. Je n'ai pas encore placé le noir, qui est la présence de l'homme, c'est-à-dire c'est les constructions anthropiques. Je vois les pylônes électriques et les lignes électriques. Il y en a pas mal parce qu'il y a des lacs et des barrages, donc il y a de l'hydroélectricité. Et boum, ça y est, je commence à lire, à voir les activités humaines. Donc là, la carte, elle commence à me parler quand j'ai combiné ces quatre couleurs.
Comme il est difficile... Comme il est difficile de trouver une forêt silencieuse déjà.
Claire et Massimo Furlan, metteurs en scène.
Quand on dit silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a que les sons et les bruits de la forêt, et que les sons urbains, humains, d'aviation, enfin, on serait absent, c'est très très difficile. Comme il est difficile aussi de trouver des forêts où on peut marcher 2-3 heures. Sans se retrouver à la frontière de, ou bloqué par, ou à la fin de la forêt, parce que parfois les forêts sont petites en réalité. Quoi.
On essaye de trouver des forêts qui nous charment, justement. Peut-être que notre expérience, c'est d'essayer de trouver ces forêts qui ont suffisamment de diversité, de parcours, de types de chemins, de cheminements, avec des essences différentes pour pouvoir aussi les voir différemment la nuit entre les feuillus et les épicéas, les sapins, etc. C'est pas du tout le même rapport à la lumière, c'est pas la même lumière qui traverse les endroits où on voit le ciel, les lisières. Donc voilà, on a cette expérience aussi de comment est-ce qu'on peut ressentir la forêt, puis quel type de forêt est-ce qu'on recherche, qui sont nos forêts préférées.
Je me mets sur un point de la carte, chose que j'adore à faire, et je me dis pourquoi. Je pointe sur la carte un sentier et je me dis, mais pourquoi ce sentier il passe là et où est-ce qu'il mène? Donc je vais voir jusqu'au bout et je vois qu'il mène à un col. Et je me dis, s'il mène à un col, il y a quelque chose de l'autre côté, hop, c'est l'Italie. Je me dis, ah, c'est un col, peut-être que c'est un sentier de contrebandier, ce sentier. Je vais regarder jusqu'où il va exactement, de chaque côté dans la vallée, et je vais regarder ce sentier qui serpente, et pourquoi est-ce qu'il est passé finalement par ce col et pas par un autre. Et je vois qu'il y a des éboulements, et je vois qu'il y a des endroits, c'est noté sur la carte les éboulements, qu'il y a des endroits qui doivent être pas stables du tout, peut-être très dangereux au printemps quand ça dégèle. Donc en fait, le sentier n'est pas allé au plus court, il est allé au plus sécur.
Elle allait toute seulette, sifflotant son petit panier au bras. Alors que les loups du cru, qui savaient à quoi s'en tenir, déployaient tout leur art pour l'éviter, un matamore de banlieue la jugea à son goût. Suffisamment à son goût pour se proposer de la violer d'abord et de la dévorer ensuite. Ni plus ni moins, comme à la maison. Mal lui en prit. Il s'approcha d'elle par derrière, à pas de loup, et d'un bond la renversa sur le sol. Il avait déjà arraché son chaperon, lacéré son caraco, troussé sa jupe et se voyait près du but quand l'éclair du petit couteau jaillit au poing de la donzelle. Chaperon, se dégageant de sous le cadavre encore agité de soubresauts de ce galant trop empressé, tremblait de tout son corps. De rage plus encore que de terreur rétrospective, elle sentait monter en elle une haine terrifiante de ce loup et de tous ses semblables. Jusqu'à cet instant, c'était la chasse. À présent, ce serait la guerre. Au départ, c'est plutôt les loups des villes, complètement inexpérimentés, qui payèrent l'essentiel du tribut. Mais les loups des champs et des bois ne tardèrent pas à passer à leur tour à la caisse. Ayant pris la mesure du fléau, ils décrétèrent l'état d'urgence numéro 1. Dans le même temps, la mère Grand, s'alarmant de la rapacité vindicative désormais sans frein de Chaperon, décida que c'en était assez. Quand c'est ben, c'est pro. Pourtant, la fille n'était pas laide, loin s'en faut. Fine, vive, un visage avenant, elle aurait même pu être jolie, n'étaient ces étranges yeux jaunes qui vous dévisageaient sans ciller.
Tout l'imaginaire de la forêt, la nuit, la peur, le loup, enfin toute cette histoire qui nous revient, donc évidemment on est, et puis peut-être les quelques fois où vraiment il y a une appréhension forte, c'est quand vous rencontrez quelqu'un d'autre. C'est ça qui est aussi paradoxal. Rencontrer un humain de nuit dans la forêt, là c'est tout de suite une tension très très forte, parce qu'on ne devrait pas y être, ni l'un ni l'autre, à cet endroit-là. Auréa, c'est une forêt très dense, quoi. Extrêmement dense, peu de travail humain dans cette forêt, donc voilà, en plus c'était en plein été.
Beaucoup de feuillage.
Bonjour, bonsoir, bienvenue, nous allons entrer dans la forêt et vous allez voir, très vite vous allez être dans l'obscurité. Et effectivement, cette forêt, vous faisiez 3 mètres dans la forêt et vous ne voyez plus vos mains. Impossible, les gens ne voyaient plus leurs mains, évidemment, même pas leurs pieds. Ouais. Et donc c'était les ténèbres, vraiment c'était presque du 100%, enfin c'était quasiment du 100%. Et donc c'était, les gens étaient tétanisés. En plus le chemin était étroit et en descente comme ça. Et un peu glissant.
Ouais.
Et donc on s'est dit, bon bah là ça va pas couper quoi, enfin il va certainement y avoir des hurlements de panique. Et tout le monde, enfin voilà, les gens ont serré les dents. C'était magnifique, hein. D'émotion incroyable. Jamais ressenti comme ça fortement, quoi, de se retrouver, il y a un petit côté train fantôme.
Il y avait parmi les loups un vieux briscard d'une grande intelligence, blanchi par l'âge et aguerri par l'expérience, couturé de cicatrices de toutes origines. Il connaissait bien Chaperon, qu'il avait souvent suivi de loin, partagé entre l'horreur que lui inspirait son comportement et une certaine sympathie admirative pour son courage, sa liberté et son habileté de chasseresse. Il connaissait bien la vieille aussi, souvent observée discrètement, parfois croisée plus ou moins délibérément dans les sommières. Il se rendit chez elle et lui proposa tout uniment le marché suivant. « Si tu m'aides, je me fais fort de régler le problème de cette morveuse, désormais dangereuse pour nous tous. » La vieille hésita un peu, mais le vieux loup, alternant terrifiques descriptions de l'avenir, flatteries doucereuses et menaces à peine voilées, il emporta la décision. Ayant revêtu sa chemise de nuit et coiffé son bonnet, il s'installa dans son lit pendant qu'elle s'en allait voir plus loin si le loup y était. Chaperon arriva, d'humeur exécrable. Sans sindou et sans une seule rondelle de cervelas. Elle fit sauter la chevillette d'un coup de sabot, laissa la bobinette choir au sol et, voyant la vieille encore au lit au milieu de la matinée, se mit en devoir de l'en déloger pour accéder au bas de laine. Elle s'aperçut trop tard du changement de locataire. Le petit couteau fut prestement subtilisé en même temps qu'une mâchoire de fer enserrait son oreille gauche et qu'un grondement sans ambiguïté la renseignait sur son erreur. Sans relâcher son étreinte, le loup s'extirpa du lit, se débarrassa de ses oripeaux et l'entraîna dehors. Il lui fit prendre, au petit trot, une sente discrète en direction d'une clairière où siégeait le tribunal des loups. Au fur et à mesure que la course avançait, le doyen éprouvait un sentiment croissant d'étrangeté. Leur position respective l'empêchait de voir sa prisonnière, mais il sentait sa foulée s'assouplir et s'allonger, sa crainte s'estomper. Et il eut la sensation que sa gueule à lui s'emplissait de poils. Parvenu au milieu du cercle des juges médusés, il lâcha Chaperon et s'aperçut qu'elle s'était muée en une jeune louve, fine, vive, jolie, qui le dévisageait sans ciller de ses yeux jaunes. Chaperon était un loup-garou. Les loups avaient compris instantanément et le débat fut bref. Chaperon, fut sur le champ intronisée bête alpha. Dans l'heure qui suivit, la horde, pressentant les battues et autres ennuis que sa disparition allait entraîner, décida d'émigrer sans délai vers des lieux moins inhospitaliers. Elle jeta son dévolu sur le massif des Lozières, dont Chaperon avait appris les ressources à l'école. Gibier abondant, moutons replets, patous stupides et force randonneurs tout nourris de choses bio, saines et garanties sans pesticides. À la brune, les loups se mirent en route. Chaperon, qui avait toujours été bonne en géographie, marchait en tête. La jeune louve était belle, fine, vive, avec de grands yeux jaunes.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez pas mal cheminé dans ce paysage. Est-ce que, par exemple, sur cette carte-là, est-ce qu'il y a un coin que vous avez déjà parcouru et que, voilà, il y a des bouts où, en suivant la carte, vous avez aussi des images, vous avez aussi des sensations, vous avez aussi... Est-ce que vous pourriez nous raconter, pour finir, un bout de ce chemin, oui, à un endroit précis de la carte?
Oui, parce que ça me ramène à... j'avais dit, un jour, mon fils, il avait 7 ans, et je lui ai dit... je vais t'emmener au lac Blanc, c'est un endroit que j'aime bien, qui est en fait en face du Mont Blanc, et puis des Grandes Jorasses, etc. On a vraiment tous les hauts sommets. Pour les voir bien, il faut se mettre en face, quoi. Voilà, si on est en dessous, ils nous dominent et on les voit un par un. Alors, j'avais dit, je t'emmène au lac Blanc, on va bivouaquer. Bon, on n'a pas trop le droit de le faire normalement, mais... voilà, si on reste tranquille quand tout le monde est reparti. Donc je lui avais dit, de toute façon, on ne monte pas de tente. J'avais vu qu'il ferait beau et c'était le 14 juillet. En fait, c'était la veille du 14 juillet, je n'avais pas fait gaffe. Et je le vois sur la carte, on a garé la voiture au col des Montets. C'est une rando sympa, un peu quand même exigeante sur certains passages en pente. Bon, il avait 7 ans, il a bien suivi. Et donc, on est bien parvenu au lac Blanc, qui est bleu, en fait. Et on est redescendu un petit peu pour bivouaquer le soir. Et j'avais pas pensé, on était à la mi-juillet, du coup, que les bouquetins étaient en rute. Et c'était la saison des amours, quoi. Et c'était absolument phénoménal. Et Hector était quand même un peu inquiet. On s'était mis sur un replat, l'herbe est absolument incroyablement douce, c'est de l'herbe qui est très dense, donc il n'y a pas besoin de rien, on dort direct sur l'herbe, c'est un matelas, mais sauf qu'il y avait pas mal de monde autour de nous, et à la nuit tombée, les bouquetins, ils étaient à fond, et moi je lui disais, mais non, il n'y a aucun souci Hector, ils s'en foutent les bouquetins de nous, et lui il avait quand même un peu la trouille, et on en a vu qui s'affrontaient, les bois on les entendait, qui s'entrechoquaient, etc., etc. Et moi j'ai joué mon rôle de père, je m'en rappelle très bien, en lui disant, mais tu n'aies aucun souci, mais j'ai absolument jamais dormi. Et j'étais pas sûr du tout qu'on était en totale sécurité, voilà. Et lui par contre, il s'est endormi. Il était confiant, super. Et avant, on a évidemment regardé le soleil se coucher sur le Mont Blanc. La nuit arrivée, en aval, Chamonix commençait à rayonner par ses lumières. Il y a une sorte de lumière qui monte par le bas. On ne voyait pas Chamonix, mais on voyait la lumière qui éclairait quelque part les flancs en dessous du Mont Blanc. Et puis, il y a eu un feu d'artifice. Alors, ça, on ne s'y attendait pas. Donc on a vu un feu d'artifice, donc c'était juste incroyable ce qu'on a vécu pendant une nuit, et le matin, le froid évidemment, on se réchauffe, le petit café, puis la redescente, et là quand je regarde la carte, je le vois, le sentier, je le suis complètement, et la redescente vers la voiture, on a passé un jour et demi absolument merveilleux, père et fils, là, au milieu de rien, avec les animaux sauvages, en liberté, au milieu d'une pelouse alpine, moelleuse comme tout. J'ai ce souvenir, quand je regarde cette carte, c'est ça. Mon fiston et nous deux complices, j'ai dévotion quand j'y repense, voilà.
Nos géographies, un documentaire réalisé par Anne Bouchard, avec Alexandre Moine, Claire et Massimo Furlan, et des extraits du texte Chaperon de Daniel Boucon, interprété par Philippe Lardot. Montage-mixage Chloé Truchon, musique originale Pierre Payan. Ce projet de documentaire a reçu le soutien de la Maison de l'architecture de Franche-Comté, du CCAS de la ville de Besançon, du Rotary Club, du Lions Club Besançon Lumière et de l'association Valentin Ahuy.